Je vais vous lire le passage de la prédication de ce matin, qui se trouve en Nombre 21, versets 4 à 9. Nombre, chapitre 21, verset 4. Les Israélites quittèrent la montagne de Hor par la route de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. En cours de route, le peuple se découragea. Ils se mirent à parler contre Dieu et contre Moïse en disant « Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert ? Car il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents venimeux qui les mordirent. Et il mourut beaucoup de gens d'Israël. Le peuple vint trouver Moïse en disant « Nous avons péché lorsque nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Maintenant, veuille implorer l'Éternel pour qu'il nous débarrasse de ces serpents. » Moïse pria donc pour le peuple. L'Éternel lui répondit « Fais-toi un serpent en métal et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. » Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa au haut d'une perche. Dès lors, si quelqu'un était mordu par le serpent et qu'il levait les yeux vers le serpent de bronze, il avait la vie sauve.
Bonjour, vous m'entendez ? Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Et je voulais commencer le message ce matin en vous posant une question. C'est, existe-t-il un remède, une solution pour la mort ? Il n'y a pas de triche dans ma question. Existe-t-il une solution pour la mort ? L'être humain pourrait trouver et obtenir l'immortalité dans ces siècles, vous saviez ? C'est ce qui est dit par un groupe de scientifiques qui se sont mis ensemble pour travailler dans un projet qui était présenté lors d'un forum qui s'appelait Global Future 2045, je ne sais pas si ça vous parle. Donc il y a eu un forum de scientifiques et un groupe de scientifiques ont dit qu'ils travaillent sur un projet financé par un milliardaire russe et qui est un projet qui, la finalité, c'est de trouver la clé, la formule magique pour obtenir l'immortalité. Et ils disent que le but, c'est 2045. C'est quand même un challenge. Et ces projets-là, ils sont divisés en quatre phases. La première phase, c'est le fait de pouvoir contrôler un robot depuis notre corps, avec notre cerveau, pouvoir contrôler un robot. Apparemment, ils sont presque là. Ils ont presque arrivé à faire ça. Deuxième phase, ça serait de pouvoir déplacer, transplanter un cerveau humain dans un robot, dans un corps synthétique. Pour troisième phase, en quelque sorte télécharger les contenus du cerveau humain dans le cerveau synthétique qui est dans ces corps synthétiques pour, finalement, quatrième phase, et construire un corps synthétique, un hologramme, je pense qu'on peut dire ça, une entité synthétique en entier qui remplace le corps et le cerveau humain. Donc ça c'est le projet, un peu à dire rapidement. Et apparemment, ils sont dans la première phase de ce projet. Alors, il y a une problématique en ce moment, et c'est qu'il y a eu un des participants, c'était un docteur en psychiatrie espagnol qui disait à la radio que le problème qu'il rencontre, c'est un problème actuellement insurmontable, c'est le fait de dire, ok, on peut dans quelque sorte prendre les expériences, la mémoire de la personne et dans une sorte de disque dur le mettre sur un robot. Mais qu'est-ce qui se passe avec la conscience ? C'est ce que les scientifiques appellent la conscience. Ils ne sont même pas d'accord dans le monde scientifique de donner une définition claire sur qu'est-ce que c'est que la conscience. Et s'ils ne savent pas définir qu'est-ce que c'est que la conscience, ils ne savent pas la trouver dans le cerveau humain, ils ne savent pas l'attraper pour la transplanter dans un robot, dans un corps synthétique. Donc actuellement, ces médecins-là disaient « c'est impossible, c'est un projet ». On espère qu'on pourra trouver la solution, mais aujourd'hui, on n'est pas capable d'attraper la conscience et de la mettre sur un robot. C'est marrant parce que Parce que, bon, malheureusement pour ces scientifiques, la Bible, elle nous parle déjà de ces choses. C'est, on n'est pas juste un corps. On n'est pas juste un corps et un cerveau qui a des connexions neurologiques. Mais non, on a aussi un esprit, une âme. C'est la Bible même qui nous parle de ça. Et on peut faire des efforts pour l'attraper, mais ça va être compliqué pour ces gens-là qui travaillent. Et la Bible nous parle aussi de la mort physique, de la mort du corps physique, disons, mais aussi de la mort spirituelle. Un jour, on fera face à la mort physique, on le sait. Je pense que tout le monde est conscient ici. Ce n'est pas une nouvelle. Mais aussi, on fera face à la mort spirituelle ou à la vie spirituelle. Mais il faudra faire face à cette situation-là. Et la Bible nous parle de cette mort, de la mort physique. Elle nous dit, on vient de la poussière, on va retourner à la poussière, n'est-ce pas? Et la Bible nous parle aussi à plusieurs reprises de la mort spirituelle. Mais pourquoi la mort? Pourquoi doit-on mourir? Peut-être que ça serait bien de commencer par cette question. Pourquoi la mort? Bon, je pense que la plupart de vous, vous savez que la mort est conséquence du péché. C'est comme ça que la Bible l'explique. C'est quand Dieu a créé l'homme, a créé la terre, les cieux, la terre et l'homme, il l'a placé dans un jardin avec beaucoup de choses, avec beaucoup d'arbres, avec des fruits. Il a aussi donné un commandement aux hommes à ce moment, à Adam et à Ève. Il ne fallait pas manger un certain fruit qui était produit par un arbre. Ben, ils ont pas écouté, ils ont désobéi Dieu, ils ont péché. Finalement, le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Ils ont péché et comme conséquence, il y a eu la mort. C'est comme ça que la Genèse 3 l'explique. Et peut-être que la question que tu te poses ou que tu t'es posée un jour, moi, quelquefois, il y a un certain temps, après j'ai compris, et je me suis posé aussi, c'est, bon, mais moi, je ne suis pas Adam, je ne suis pas Ève, ce n'est pas moi qui a désobéi Dieu. J'aurais peut-être fait différemment. Pourquoi je dois charger avec les conséquences des péchés d'Adam et Ève? Et la Bible, je pense que la Bible, elle savait que Dieu savait qu'on allait se poser cette question. Et il dit dans sa parole en Romains 5, 12, si vous voulez lire. Romains 5, 12, il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est attendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Je pense que c'est un verset super clair. Même si tu n'es pas Adam, même si tu t'appelles Antoine ou si tu t'appelles Aurélie, peu importe, et on a la même nature qu'Adam et Ève. On est désobéissant aussi à la parole de Dieu. On est des pécheurs et on mérite aussi, et en conséquence, la mort. Et ça, c'est l'histoire d'Adam et Ève. C'est notre histoire, le péché, et c'est l'histoire du peuple d'Israël. Parce qu'on pourrait dire, bon, peut-être que, ok, moi je désobéis Dieu, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est un peu plus fort que moi vis-à-vis de ça et qui est capable d'être 100% carré vis-à-vis de Dieu, d'obéir tout. Bah, on voit l'histoire du peuple d'Israël, par exemple, un peuple élu, un peuble spécial, on peut dire, parce qu'ils étaient élus quand même, hein, mais un peuple qui était désobéissant, mais une fois, une deuxième fois, une troisième fois, on le voit tout au long de l'histoire du peuple, et notamment dans l'histoire que Jean nous a lue ce matin, on voit bien que le peuple d'Israël, il désobéissait Dieu. Et on le voit dans cette histoire, et particulièrement. Ils avaient oublié tout ce que Dieu avait fait, parce que Dieu avait fait énormément de choses, des miracles, il avait donné des bénédictions au peuple. Et on dirait, dans quelque sorte, que de temps en temps, le peuple oubliait tout, et péchait contre Dieu, et contre parfois aussi ses serviteurs, comme on voit dans ces textes. Donc j'aimerais ce matin qu'on regarde ce texte et qu'on voit trois choses, trois aspects qui ressortent de ce texte. D'abord, c'est quel était le péché du peuple, ou les péchés, et quelles ont été les conséquences de ces péchés, deuxième chose, et troisièmement, on va voir quelle était la solution proposée par Dieu. Donc on va commencer par le péché du peuple, mais avant de rentrer dans le péché, de voir quel était exactement le péché, j'aimerais bien qu'on regarde quelle était la source, bon, qu'est-ce qui a fait que le peuple soit mené à pécher? Qu'est-ce qui était à l'origine? Pourquoi le peuple a fini pour pécher à ce moment-là? Si on lit le verset 4, je vais le relire. Dans Nombre 21, verset 4, il est écrit « Ils partirent de la montagne dehors par le chemin de la mer Rouge. » pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta, se découragea, dans la traduction de Jean, que j'aime bien, se découragea en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Bon, ça, c'est verset 5. On voit que le peuple, là, pour vous donner un peu de contexte, ça faisait presque 40 ans qu'ils marchaient à travers le désert. Imaginez-vous la situation où ils étaient, ils en avaient un peu marre. On peut dire comme ça, ils pouvaient plus, ils s'étaient découragés. En plus, si vous lisez les chapitres précédents à ces textes-là, vous verrez que Aaron et Marie venaient de mourir, et en plus Moïse, Dieu avait annoncé à Moïse, tu vas pas rentrer dans la terre promise. Donc imaginez-vous aussi le choc pour le peuple de dire, finalement nos leaders, ils vont nous quitter. Ça fait 39 ans qu'on marche dans le désert, on ne voit pas la fin, et en plus ils arrivent à la terre d'Édom. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont essayé de traverser la terre, ils ont demandé au roi, laisse-nous traverser la terre d'Édom parce qu'on est aux portes de la terre que Dieu nous a promis, on va juste passer, on ne va rien faire. Et le roi d'Édom a dit, si vous passez par là, je vais sortir avec mon épée et je vais vous attaquer. Donc encore un détour, il fallait encore détourner la terre d'Édom pour arriver à la terre promise. Et j'imagine là l'état d'esprit du peuple, il devrait être découragé, mais bien découragé. Et cela a fait... Ce découragement a fait que le peuple pêche. Parce que le découragement en soi, ce n'est pas un péché. On peut être découragé. On a le droit. Humainement, on peut dire même que c'est naturel d'être découragé, d'être fatigué, n'est-ce pas? Mais attention, parce que le découragement peut amener au péché facilement, plus facilement que, disons, que si on n'est pas découragé. Et c'est pour cela que dans la Bible aussi, il y a deux textes qui nous parlent de ça. Dieu nous invite à encourager les personnes qui sont découragées, les frères et sœurs qui passent par des moments difficiles, par des moments de fatigue, par des moments de découragement. On va lire 1 Thessaloniciens 5,14. Et je vais lire aussi Hébreux 12, versets 12 et 13. Donc 1 Thessaloniciens 5,14, il est écrit, « Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans les désordres, consolez ceux qui sont abattus. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles, usez de patience envers tous. » Donc, consolez ceux qui sont abattus. Et qu'est-ce qu'il dit, Hébreux 12, versets 12 et 13? Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. On voit bien le danger là. Le danger, c'est que quand on a les genoux qui, comme c'est écrit, les genoux qui affaiblis, qui tremblent un peu, on a des chances de partir de la voie. Donc, c'est pas un péché en soi découragé, mais attention, il faut pas y rester. Il faut pas y rester à vie parce que parfois, certaines personnes peuvent avoir tendance à ça. Donc, il faut éviter ça et il faut encourager quand on voit un frère ou une sœur qui est dans cette situation. Et maintenant, on rentre dans le péché. Quel était le péché du peuple à cette occasion-là? On va lire le verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 5, il dit, « Et par là contre... » Donc, il parle du peuple d'Israël. « Et par là contre Dieu et contre Moïse, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » C'est quand même... Je pensais quand je lisais ces versets, il y a des versets qu'on aime bien souligner et mettre dans la cuisine, dans la maison. Je pense que c'est un verset à mettre aussi parce que c'est quelque chose à ne pas faire. Là, on voit c'est vraiment incroyable ce qu'ils disent à la plainte du peuple. Et dans cette plainte, dans ces péchés, on voit plusieurs péchés, on peut dire, plusieurs péchés qui sont mis dedans. Ils font une espèce de quatre, hein. Moi j'en ai vu quatre, de quatre péchés tout d'un coup. Le premier, c'est qu'ils se plaignent, ils parlent, ils murmurent contre Dieu et contre son serviteur. Ils parlent contre Dieu. Au lieu de le louer pour tout ce qu'il faisait, pour les promesses qu'il donnait à son peuple, pour les miracles qu'il faisait, ils parlent contre Dieu, d'abord. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils font? Deuxième péché, on peut dire, c'est que ils remet en cause la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il disait? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Ce n'est pas un péché de se demander quelle est la volonté de Dieu. C'est bien de le faire, il faut le faire. Mais quand on sait quelle est la volonté de Dieu, la remettre en cause, le peuple d'Égypte disait, là il disait pas, le peuple d'Israël, pardon, il n'était pas en train de dire, Seigneur, montre-nous ta volonté. Dieu avait montré sa volonté. À plusieurs reprises, il avait dit, je vous sors d'Égypte pour vous amener dans la terre promise. Et là, le peuple était en train de remettre en cause la validité ou que ce soit la meilleure chose, la volonté de Dieu. Il disait, mais pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? On était mieux en Égypte, il disait aussi. Dans d'autres textes, ils disent, on aurait pu être au moins bien enterré en Égypte, et là on va mourir dans le désert. Donc il remet en cause la volonté de Dieu. Troisième chose qu'ils font, c'est qu'ils ne font pas confiance aux promesses de Dieu. C'était quoi la promesse de Dieu? C'était de le faire rentrer dans la terre promise. Une terre où il y avait du lait et du miel. Et qu'est-ce qu'ils disent là? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Ils n'avaient rien compris. Ils ne faisaient pas confiance à ce que Dieu disait. Dieu avait dit, ce n'était pas pour mourir qu'il les avait amenés là. C'est vrai qu'on sait qu'une génération a dû mourir dans le désert à cause du péché du peuple. Mais là, ils étaient vraiment prêts de rentrer dans la terre. La plupart du peuple, à ce moment-là, allait rentrer dans cette terre promise. Et là, ils ne croient pas à la promesse de Dieu, aux promesses de Dieu. Et quatrième chose, ils méprisent la provision de Dieu. Regardez ce qu'ils disent. Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Qui prend un miracle de Dieu qui était la manne, et il appelle misérable nourriture. Il méprise la provision de Dieu. Et tout cela s'est passé parce que le peuple avait oublié ce que Dieu avait fait pour eux, et ce que Dieu avait dit aussi, leur avait promis. Et c'est très intéressant de voir le parallèle qui existe avec l'histoire d'Adam et Ève. Je veux qu'on revienne à l'histoire d'Adam et Ève, parce qu'il y a un parallèle très intéressant. Vous savez que, j'expliquais tout à l'heure un peu l'histoire, c'est Dieu a créé l'homme, l'homme et la femme les a mis dans un jardin, et a dit, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, mais il y a un arbre, il ne faut pas manger. Il y a un fruit, dont il ne faut pas manger, sinon la conséquence est la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le serpent qui est arrivé, n'est-ce pas, qui a dit à Ève, c'est vrai que Dieu vous a dit de ne pas manger ce fruit. Il vous a dit que c'est pour ne pas mourir, mais êtes-vous sûr que c'est pour ça? Parce que peut-être c'est juste parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Peut-être que si vous mangez de ces fruits, vous allez devenir comme Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ève a mangé et a fait manger à Adam à son tour, qui a aussi pris et qui a aussi mangé. Et dans cette histoire, on voit les mêmes péchés qu'on retrouve dans le peuple d'Israël. D'abord, ils ont parlé les uns contre les autres. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Quand Dieu a demandé à Adam, qu'est-ce qu'Adam il a dit? C'était Ève, c'est pas moi. Et Ève, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est le serpent. Ils ont parlé les uns contre les autres. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remis en cause la volonté de Dieu. Le serpent, qu'est-ce qu'il a dit? C'était sûr que c'est... Pourquoi Dieu t'a dit ça? Vous êtes sûr que c'est parce que il veut pas que vous mouriez? Ou peut-être parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Donc ils ont remis, le serpent dans ces cas, a remis en cause la volonté de Dieu. Troisième chose, ils n'ont pas fait confiance à la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait promis? Vous allez mourir. Je pense qu'ils n'ont pas cru. S'ils avaient cru, ils n'auraient pas mangé. J'espère. Donc ils n'ont pas cru, ils ont cru le serpent. Ils n'ont pas cru ce que Dieu avait dit. Et quatrièmement, ils ont méprisé aussi la provision de Dieu. Dieu avait donné tout un jardin dont ils pouvaient utiliser, ils pouvaient manger. Et là, ils sont allés manger dans là où ils ne pouvaient pas, ils ne devaient pas. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'histoire d'Adam et Ève, et c'est notre histoire aussi. Si on prend ces péchés, qui n'a jamais parlé contre un frère, ou contre une sœur, ou même contre Dieu? Qui n'a jamais murmuré? Qui n'a jamais... remis en cause la volonté de Dieu pour soi-même ou pour son Église, qui n'a jamais ne pas fait confiance aux promesses de Dieu? Est-ce que vous croyez toujours toutes les promesses de Dieu ou parfois on a des doutes? Et qui n'a jamais méprisé aussi sa provision? Parfois on se plaint de ce qu'on n'a pas et on ne reconnaît pas ce que Dieu nous donne, n'est-ce pas? On est aussi comme Adam et Ève, on est aussi comme le peuple d'Israël. Et pour cela, c'est très intéressant dans la Bible, on voit que suite au nombre, il y a le livre de Deutéronome, Et c'est le livre de Deutéronome nous parle de, c'est juste le moment où le peuple va rentrer dans la terre promise, c'est les derniers mots de Moïse pour le peuple. Et qu'est-ce qu'il dit Moïse au peuple? Moi, si je devais résumer le livre dans un mot ou deux mots, ça serait « rappelez-vous ». Il utilise le mot « rappelez-vous », l'expression « rappelez-vous » plein de fois, parce que finalement, ce qui nous fait beaucoup de fois pécher contre Dieu, c'est qu'on ne se rappelle pas. On ne se rappelle pas ce qu'il a fait pour nous, on ne se rappelle pas de ce qu'il nous donne, de ce qu'il nous promet, et ça nous fait arriver au péché. Et Moïse, il dit au peuple « rappelez-vous de quoi ?» De deux choses. D'abord, et qui peut être résumé dans deux textes, Deutéronome 8, verset 2, il dit « rappelez-vous de quoi ?» Ou « souviens-toi ». Deutéronome 8, verset 2, « souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Rappelle-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait avec toi. Ça serait une phrase. Rappelons-nous de ce que Dieu a fait pour nous pendant toute notre vie, au cours de notre vie. Rappelons-nous des expériences qu'on a vécues avec Dieu. Et deuxième chose, Deutéronome 6, versets 6 au 9. De quoi il faut aussi se rappeler? Pas juste de ce que Dieu a fait, mais aussi de ce que Dieu a dit. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras, à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te leveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Rappelons-nous de ce que Dieu aussi nous a commandé, nous a ordonné, nous a dit. Alors, deuxième chose qu'on voyait, c'était, on a vu quel était le péché. On disait qu'on allait voir quelles ont été les conséquences de ces péchés. Qu'est-ce qui est dit dans le verset 6? Verset 6 de ce texte de Deutéronome 21. Quelles ont été les conséquences? Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Je ne sais pas ce qui est écrit dans ta traduction, Joanne, ce n'était pas exactement pareil. Le venimeux. Moi, j'ai dans ma traduction brûlant, ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Donc les conséquences, c'est que Dieu envoyait des serpents. Et brûlant, je me disais peut-être que cet adjectif fait référence à l'aspect physique, parce que peut-être que les serpents, quand ils bougeaient dans le désert, on dirait que c'était des flammes, c'est une possibilité, mais sûrement c'était à cause de l'effet qui produisait la morsure du serpent dans le corps des personnes qui la prenaient. Donc quelles ont été les conséquences? D'abord, le mal est rentré dans le peuple. On voit que le serpent était au milieu d'eux. Dans une autre traduction, ici dit l'Éternel envoya contre le peuple, mais dans d'autres traductions, on a envoya pas contre, mais entre le peuple. Le mal était rentré dans le peuple, entre le peuple. Imaginez-vous être chez vous, dans vos tentes à cette époque-là, et avoir des serpents par là. Vous couchez au lit le soir, il y a un serpent qui vous monte par ici, et en plus brûlant, hein, c'était pas comme un chat ou un petit chien qui fait plaisir d'avoir parfois chez soi. Non, c'était un serpent qui était pas le bienvenu, mais qui était là, parmi eux. Imaginez-vous la situation. Donc le mal était parmi le peuple, première conséquence. La souffrance augmentait aussi. Imaginez-vous quelle souffrance de voir déjà mourir les gens à côté de toi et de penser que c'est peu que dans tes pantalons il y ait un serpent et le lendemain quand tu vas t'habiller, il y ait des serpents qui sont là. Imaginez-vous quelle souffrance. Et troisième conséquence, la mort. Finalement, si on se faisait mordre par un serpent, le texte nous dit que c'était la conséquence directe, c'était la mort. Et je reviens au parallèle avec Adam et Ève, parce qu'on voit bien ces trois conséquences aussi suite au péché d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Le mal est rentré dans ce monde et passé habité parmi eux. Qu'est-ce qui s'est passé avec la génération suivante, avec ses propres enfants? Son fils Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Abel. Le mal était parmi eux. La deuxième chose, la souffrance a augmenté. La Genèse 3, et versets 16 au 19, suite au péché d'Adam et Ève, suite à la chute, Dieu dit quelles sont les conséquences de cette chute. Et on voit bien quelles sont les conséquences. C'est l'effort au travail, c'est les douleurs, les maladies. On voit bien que la souffrance augmente à cause du péché d'Adam et Ève. Et la mort, Genèse 3, 19, je veux le lire, parce que j'en ai fait référence plusieurs fois. Genèse 3, 19, la conséquence du péché d'Adam et Ève, la mort. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. On voit bien que ces trois péchés, ces trois conséquences du péché ont été présentes dans le peuple d'Israël, dans cette occasion-là, et sont aussi présentes suite au péché d'Adam et Ève. Et est-ce qu'on ne voit pas ces choses-là aujourd'hui dans notre société? Est-ce qu'on ne voit pas ces conséquences aujourd'hui aussi dans notre société, dans le monde où l'on habite? Est-ce qu'on ne voit pas le mal? Si on regarde les journaux, on le constate vite fait. Hein. Le mal est parmi nous. La souffrance. Il y a des peuples, des nations en entier qui souffrent, des personnes qui souffrent, des maladies, des situations familiales compliquées. Et qu'est-ce qu'on peut dire de la mort qui peut s'en échapper? Mais je n'aimerais pas qu'on parle juste de la société, parce que parfois on dit juste dans notre société. Mais et chez nous? Est-ce que le mal, il n'est pas quelquefois chez nous aussi? Est-ce qu'on ne fait pas des choses qui font mal aux autres, qui nous font mal à nous-mêmes et qui font mal à Dieu? Est-ce qu'on ne souffre pas? Est-ce qu'on n'a pas de situations difficiles dans nos vies qui nous font souffrir? On ne passe pas par des maladies, par des situations compliquées, des situations familiales, des problématiques au travail, avec les études? Et qu'est-ce qu'on peut dire de la mort qui peut s'en échapper? C'est un peu dur tout ça, n'est-ce pas? Donc on voit bien quelles sont les conséquences. Quelles sont ces conséquences? Je vais juste vous lire un texte qui se trouve en Galates 5, 19 au 21, qui montre quelle est la nature humaine, finalement. Galates 5, 19 au 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que c'est qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Qui n'a jamais commis une de ces choses qui sont listées là? Je pense qu'on se voit tous dans cette liste. Du coup, que peut-on faire face à cette situation si horrible, on peut dire, si difficile? Que peut-on faire face à cette réalité? Peut-on faire quelque chose, hein, déjà? C'est la question. La réponse est non. Tu peux rien faire. On peut rien faire pour éviter le mal. Le mal sera toujours autour de nous. La souffrance, tu peux rien faire. Et la mort, on ne peut pas éviter la mort physique, on le sait bien. Mais est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Est-ce que Dieu peut faire quelque chose contre ça? Regardons ce qu'il a fait dans cette histoire avec le peuple d'Israël. On va voir le verset 7 au 9, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la solution proposée par Dieu? Quel était le remède proposé par Dieu? Nombre 21, versets 7 au 9. Il dit, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. C'est très intéressant de voir que le peuple s'approcha de Moïse pour demander une solution. Il reconnaissait son péché. Il demande à Moïse, demande à Dieu qu'il enlève les serpents. On ne peut plus. On ne peut plus de ce mal, de cette souffrance. Demande à Dieu qu'il enlève les serpents. Et qu'est-ce que Dieu il fait en réponse? C'est intéressant de voir que Dieu, il n'enlève pas les serpents. Il aurait pu, hein? Il aurait pu dire, on enlève les serpents, c'est fini le mal, la souffrance, la mort dans cette situation. Mais il ne fait pas ça. Dieu, il ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il demande à Moïse de se construire un serpent de bronze. Et Moïse fait ce qu'il disait, fait ce que Dieu lui ordonnait. Mais pour bénéficier de ces remèdes, de cette solution, il fallait accomplir certains prérequis, déjà. On a vu que c'était un serpent fait pour les gens qui avaient été mordus par le serpent, pour que s'ils regardaient le serpent, ils avaient le salut physique, disons. Donc, déjà, premier prérequis, il fallait être mordu par le serpent. Deuxième prérequis, pour bénéficier de ces remèdes mis par Dieu, c'était reconnaître qu'on avait péché. Le peuple est allé vers Moïse, il a reconnu, il s'est repenti, il a reconnu qu'ils avaient péché. Troisième prérequis, troisième condition, c'est avoir la foi. C'est comme quand on va chez le médecin, parce qu'on se sent mal, on reconnaît qu'on n'est pas en forme, on va voir le médecin, il nous dit, il faut que pour cela, il faut que vous mangez 20 bananes par jour. On peut se sentir très mal, mais peut-être si on ne croit pas à la solution, on ne va pas la prendre. Donc il fallait avoir la foi de regarder un serpent de bronze pour être sauvé. Mais quelle solution si bizarre, n'est-ce pas? Et quatrième chose, finalement, regarder le serpent. Il ne suffit pas de croire que c'est la solution. Il faut manger les pilules, prendre les pilules si le médecin nous dit que c'est ce qu'il faut faire. Il fallait regarder le serpent qui avait été fabriqué par Moïse. Et pour cela, c'était compliqué, parce qu'imaginez-vous qu'il y avait des serpents autour d'eux. Il y avait la famille sûrement qui était aussi là, qu'il fallait garder. Mais il fallait sortir la vue de ça, des circonstances qui entouraient chacun, pour lever ses yeux et regarder vers le serpent de bronze. Donc, ce n'était pas si simple que ça, je veux imaginer. Donc, il fallait faire ça. Et cette histoire, finalement, c'est une histoire, c'est une histoire ponctuelle, on peut dire. Dieu a fourni une solution, un remède à la mort physique du peuple, de ceux qui étaient mordus par les serpents. À un moment donné, c'était la mort physique. On sait très bien que dans quelques années, ces personnes-là sont mortes. On sait que ce n'était pas l'immortalité que Dieu offrait à cette occasion, c'était juste le salut à ces moments donné. Mais c'est aussi un prélude très intéressant pour quelque chose qui s'est passé plus tard et beaucoup, beaucoup plus grand. Et c'est finalement la venue de Jésus, n'est-ce pas, pour offrir un remède, une solution de la même sorte, non pas pour la mort physique, parce qu'on sait très bien qu'on va mourir, mais pour la mort spirituelle. C'est un parallèle qui est extraordinaire, je trouve, avec l'histoire de Jésus. Donc Dieu qui a envoyé son propre fils, son fils unique, pour offrir un remède à la mort spirituelle. Il aurait pu aussi, Dieu, enlever le mal, enlever la souffrance, enlever la mort physique, n'est-ce pas? Mais il n'a pas choisi de faire ça. Il a choisi d'envoyer son propre fils, donc il est allé encore au-delà, pas pour nous offrir une belle vie sur terre, mais pour nous offrir le salut et la vie éternelle pour l'éternité, pour pouvoir rester avec lui. Donc, je ne sais pas si tout le monde ici a déjà décidé de regarder vers la croix, parce qu'on voit très bien l'image aussi de Jésus qui était dans le bois, dans la croix, comme le serpent, n'est-ce pas, auquel on peut regarder, comme le serpent de bronze, auquel on peut regarder pour trouver le salut. Je ne sais pas si tout le monde l'a fait, tout le monde qui est là. Et si vous l'avez déjà fait, je ne sais pas si on le regarde souvent, parce qu'on pense parfois qu'on regarde une fois dans la vie la croix et on a le salut et c'est fini. Est-ce qu'on s'accroche à la croix? Est-ce qu'on regarde à la croix parce qu'on se sent encore mordu par le serpent? On sent que le mal est autour de nous, qu'on se bat contre le mal, on a de la souffrance. Est-ce qu'on a nos yeux fixés sur la croix? On est capable de sortir le regard de nos circonstances, de nos problématiques et regarder vers la croix. C'est compliqué, hein? C'est difficile. Il y a eu un jour, Jésus s'est trouvé avec une personne qui s'appelait Nicodème. Je pense que certains parmi vous connaissent. Et Nicodème, c'était quelqu'un de très sommité, très connu parmi les Juifs. À l'époque, il était quelqu'un d'important. Et il a reconnu Jésus en tant que quelqu'un d'important, un maître, n'est-ce pas? Et Nicodème est allé voir Jésus dans la nuit pour voir ce qu'il était, pour trouver des réponses à des questions qu'il se posait. Et avant qu'il pose aucune question, Jésus a déjà donné une réponse à Nicodème. Et vous savez ce qu'il lui a dit, Jésus? Il n'a pas trop laissé parler Nicodème, parce qu'il a, je pense qu'il voulait aller rapide. En Espagne, on a une expression qui dit « au boulot hein, ». C'est « on va aller à l'essentiel ». Voilà. Donc Jésus est allé à l'essentiel, il lui a dit « Nicodème, il faut naître de nouveau. Il faut recommencer. Il faut une nouvelle naissance. » N'est-ce pas? Et c'est ce que Dieu nous propose aussi ce matin à travers son Fils Jésus. Si on se sent mordu par le serpent, si on sent que notre vie finalement est attaquée par le mal, qu'on a du mal à suivre ce que Dieu nous demande, qu'on passe par des moments difficiles, par des moments de souffrance qui font que finalement on reste découragé, on ne se sent pas bien et on a besoin de se mettre en relation avec Dieu, celui qui nous a créés, celui qui nous a donné la vie, on peut regarder cette croix qui est le remède aussi pour la mort spirituelle. Je vais lire le texte, avec ça on va finir, qui se trouve en Jean 3, versets 14 et 15. C'est l'histoire de Jésus et Nicodème, et c'est la fin de la rencontre. Jean 3, chapitre 3, versets 14 et 15. Jésus a dit à Nicodème, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc j'espère que ce matin, si vous n'êtes pas encore là, si vous n'avez pas encore regardé la croix de Jésus, que vous sachiez qu'elle est toujours là. Elle est toujours là. Peut-être qu'on ne la voit pas physiquement. Bon, vous en avez une ici, mais ce n'est pas ça, c'est... Regardez vraiment ce qu'il a fait dans la croix. Il est venu pour mourir pour nous, pour donner sa vie, pour prendre en charge nos péchés et pour donner un remède pour ta vie, pour ta mort spirituelle. Donc que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide et qu'il nous aide à tous à prendre une décision. C'est pas juste d'entendre, c'est pas juste ça qui compte. Il faut prendre des choix et je pense que c'est un choix aussi, c'est un appel que Dieu lance ce matin. Que Dieu vous bénisse.